François Hellebron, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
François Hellebron, vous êtes professeur associé à Sciences Po Paris. On peut dire, François Hellebron, que les semaines se suivent et les polémiques se ressemblent. Rima Hassan se trouve à nouveau dans l'œil du cyclone après ses propos sur le Hamas sur Sud Radio, c'était jeudi dernier, des propos jugés inacceptables par le ministre de l'Intérieur. Bruno Retailleau a d'ailleurs annoncé le jour même un signalement à la procureure de la République, estimant qu'il relevait les propos de Rima Hassan de l'apologie du terrorisme. Et dans la foulée, deux ministres, François-Noël Buffet et Patrick Mignola, ont évoqué la possibilité d'une déchéance de nationalité en cas de condamnation. Dimanche dernier, dans un autre tweet, Rima Hassan vise une entreprise marseillaise qu'elle accuse de fournir des composants militaires à l'armée israélienne et va jusqu'à divulguer l'adresse et le numéro de téléphone de la société. La préfecture de police des Bouches-du-Rhône et le sénateur du département Stéphane Ravier l'ont signalé à la justice. Et puis, plusieurs associations pro-palestiniennes ont pris pour cible le prochain salon de l'immobilier israélien qui se tiendra dimanche prochain, le 9 mars, accusant ce salon de vendre des biens immobiliers dans les territoires.
Donc vous avez raison, cher Pierre, de mentionner en fait tous les propos annoncés par Rima Hassan au cours des dernières semaines. Elle utilise son compte Twitter X de manière répétée pour à la fois agresser les Juifs français, mais aussi agresser les valeurs de la République française, cibler des personnalités ou des entreprises juives, organiser des manifestations violentes et effectivement, à la fois comme citoyenne française, mais aussi comme députée au Parlement européen, elle présente des menaces à la société française dans son ensemble. Et donc, il est normal que Bruno Retailleau et certains ministres s'élèvent contre ces positions. J'ai eu deux occasions d'être confronté à elle il y a un an exactement d'ailleurs. C'était le 5 mars, elle était venue à Sciences Po le 5 mars de l'année dernière, invitée par des collectifs palestiniens, et comme je suis professeur enseignant à Sciences Po, j'ai pu rentrer évidemment dans la salle, et je l'ai écoutée, elle est assez bien construite, elle s'exprime bien, elle a du charme, mais son propos sur le fond est absolument inqualifiable. À l'époque, elle n'était pas encore députée européenne, elle n'était même pas encore candidate, elle était moins connue. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'elle se présentait comme réfugiée palestinienne. Alors c'est justement sur sa nationalité française, sur laquelle il y a une demande de déchéance. Moi, je l'ai interpellée là-dessus en disant « Je suis très étonné que vous soyez une juriste et que vous vous présentiez comme réfugiée palestinienne, parce que depuis l'âge de 18 ans, vous avez la chance et l'honneur d'avoir la nationalité française. Et en plus, avant, vous aviez la nationalité syrienne, donc vous êtes une franco-syrienne. Vous avez deux nationalités, vous n'êtes en rien une réfugiée, puisque pour être réfugiée, il faut être apatride, et ce qui n'était pas votre cas. Donc vous n'êtes en plus pas palestinienne vraiment, puisque ce n'est seulement votre arrière-grand-mère qui était d'origine palestinienne. Et je lui dis à ce compte-là, moi aussi, je suis un réfugié, je ne suis pas français, je suis un réfugié égyptien. Moi, ma mère a été apatride, elle a été réfugiée, chassée d'Égypte, comme toute sa famille, en 1956. Et il n'y a pas d'héritage de statut de réfugié, sauf l'exception des Palestiniens, mais ça ne fonctionne pas pour vous, puisque vous êtes de nationalité française. Et le deuxième phénomène intéressant aussi, c'est que je me suis réjoui que, à sa demande et la demande du Comité Palestine, elle était invitée à Sciences Po à revenir il y a quelques mois, et le directeur de Sciences Po était très ferme, le nouveau directeur Louis Vassy a interdit sa venue, justement présentant un risque de trouble à l'ordre public, parce que la dernière fois qu'elle était venue à Sciences Po le 5 mars, le 12 mars, le principal amphi de Sciences Po avait été occupé par les étudiants, et des étudiants juifs de Sciences Po avaient été discriminés et agressés. Et donc, pour constitution de troubles à l'ordre public, Rima Hassan a été interdit de venir à Sciences Po, ce qui a été remis en cause par le tribunal administratif, mais surtout, le Conseil d'État a considéré, à juste titre, qu'elle présentait un trouble à l'ordre public, elle ne devait pas revenir à Sciences Po. Donc, le filet se resserre sur elle, il y a plus en plus de pression, il y a plus en plus de condamnations, il y a plus en plus de poursuites judiciaires, vous l'avez signalé, signalement au parquet, et poursuites judiciaires d'association. Donc j'espère qu'elle va perdre son immunité diplomatique européenne, elle peut même perdre son mandat de députée européenne. Sur la perte de sa nationalité française, peut-être, apologie de terrorisme, c'est un crime grave, j'espère qu'elle sera condamnée pour ça. Et c'est clairement une agente du Hamas, mais pas seulement du Hamas, on l'a vu récemment dans l'affaire Boualem Sansal, c'est aussi une agente des services algériens. Et donc très proche des régimes dictatoriaux, la Syrie, celui de Bachar el-Assad dont elle était très proche, et le régime algérien, et évidemment la porte-parole du Hamas en France. Et c'est un scandale qu'elle ait une telle audience dans notre pays.
Alors, on va changer de sujet. Rien ne va plus entre les États-Unis et l'Europe, notamment après la conférence de presse entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. C'est le branle-bas de combat dans les pays européens pour augmenter leurs dépenses de défense. L'Europe peut-elle se substituer aux États-Unis en Ukraine? Est-on passé, sans s'en rendre compte, d'une situation de paix sous parapluie américain à une situation de vigilance armée? Depuis la prise de fonction de Donald Trump le 20 janvier, entre les droits de douane, le Proche-Orient, l'Ukraine, l'Europe, hier soir encore dans son discours sur l'état de l'Union, le Groenland et le Panama, le monde multipolaire que nous connaissions depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale semble disparaître avec le retour des empires et notamment l'empire américain.
Alors, on a une demi-heure, trois quarts d'heure pour essayer de répondre à vos sept questions, huit questions. Non, je rigole. Je rigole avec un sujet qui est effectivement excessivement grave, mais comme dans toute crise, il faut aussi voir les impacts positifs que ça peut avoir. Effectivement, depuis 1945, nous vivons sous le parapluie américain. Moi qui, comme vous, fais mon service militaire comme officier, il y a quelques décennies avant la chute du mur, on se préparait à l'invasion soviétique. Les chars soviétiques étaient à 250 km de Strasbourg. Et donc, on se préparait à affronter ça. Mais à l'époque, on avait 3 millions de soldats. C'était la conscription, c'était le service militaire. Et on avait les armements, le système pour nous défendre, les capacités de combat. On ne les a plus aujourd'hui. Aujourd'hui, l'armée française est une armée d'élite, une armée de commando, une armée d'intervention et de projection rapide sur des territoires lointains, que ce soit l'Irak, l'Afghanistan, le Mali, le Sahel. Mais ce n'est plus une armée pour affronter dans des combats de chars, dans des combats d'aviation, dans des combats d'infanterie, une armée russe qui est assez proche de ce qu'était l'armée soviétique, c'est-à-dire une armée de masse, une armée d'offensive, un rouleau compresseur. On le voit avec l'Ukraine, et l'Ukraine, l'armée ukrainienne est d'une vaillance et d'un courage absolument exceptionnel, mais avec des dizaines de milliers de morts, voire peut-être plus de 100 000 morts, on ne sait pas exactement les chiffres. Et donc, la France n'est pas apte, l'Allemagne n'est pas non plus, la Pologne est la seule armée à peu près bien constituée et bien armée en Europe. Et donc, il faut effectivement, c'est ça peut-être la bonne nouvelle pour l'Europe, il faut que l'Europe se réveille. Elle s'est trop longtemps vécue sous le parapluie américain. Il faut avoir une défense autonome. Il faut avoir une armée européenne, on en a parlé depuis très longtemps, on en parlait déjà quand j'étais à l'armée, moi, il y a 40 ans, dans les parachutistes. Et c'est toujours pas le cas, il y a une vague brigade franco-allemande, mais c'est pas vraiment le cas. Mais dans le cadre d'une armée européenne, avec la puissance économique de l'Europe, les moyens de financiers européens, mais aussi, peut-être aussi, l'indépendance en termes d'armement, parce qu'un des problèmes, par exemple, la France a un excellent avion de combat qui est le Rafale, qui est un des meilleurs avions de combat au monde. Les seuls pays d'Europe qui ont acheté cet avion, c'est évidemment l'armée française, et l'autre pays, c'est la Grèce. Mais ni les Allemands, ni les Polonais ont acheté cet avion, ils ont acheté des avions américains. Donc la dépendance américaine est très forte, et on le voit aussi sur l'Ukraine, la dépendance est très forte à des systèmes de technologie américaine, notamment le système Starlink, qui permet aux Ukrainiens d'avoir un avantage majeur sur le terrain. Mais Starlink, c'est Elon Musk, et Elon Musk est ministre de Donald Trump. Et donc, un peu comme quand De Gaulle a trahi Israël en 1967 pendant la guerre des six jours, ça a été terrible pour Israël, mais heureusement la guerre n'a duré que six jours, et l'embargo sur les armes françaises a été dramatique, parce que pratiquement toutes les armes israéliennes à l'époque étaient françaises. Eh bien, ça a réveillé Israël, et Israël a dit plus jamais ça, il ne faut plus être dépendant d'une puissance étrangère, et aujourd'hui, Israël, dans sa très grande majorité des cas, est autonome sur ses systèmes d'armement et ses systèmes de munitions, et il faut que l'Europe, vis-à-vis des États-Unis, devienne totalement autonome pour assurer sa défense, et c'est à nous d'assurer notre défense et de mettre les moyens pour ça. Seule la France et l'Angleterre, depuis 1991, ont dépensé 2% ou plus de leur budget pour leur armée. Les autres pays ne l'ont pas fait, et les autres pays doivent le faire et mettre leurs mains à la pâte et reconstituer des armées et des commandements intégrés, structurés.
Hier soir, France 2 a diffusé un documentaire sur Anne Frank, journal d'une adolescente. Le documentaire réalisé par Alexandre Moix retrace avec une grande fidélité le quotidien, les espoirs et les angoisses d'Anne Frank, jeune fille juive allemande cachée avec sa famille aux Pays-Bas sous l'occupation nazie. 80 ans après la disparition d'Anne Frank à Bergen-Belsen, c'était en mars 1945, son histoire Loire résonne toujours comme un symbole de résistance et d'espérance, même si, comme on l'a vu au César, rien n'est moins sûr.
Tout à fait. Anne Frank, comme vous l'avez rappelé, était une jeune fille juive née à Francfort en 1929. Donc quand elle va mourir à Bergen-Belsen, effectivement, entre la fin février et le début mars 1945, on n'a pas vraiment la date exacte, mais on sait que c'était à peu près à ce moment-là, par des témoignages. Elle a 15 ans et demi, elle n'a pas encore 16 ans. Sa sœur aînée, qui a 3 ans de plus qu'elle, Margot, va mourir quelques semaines avant elle. Elles sont totalement dénutries, elles ont froid, elles n'ont pas de vêtements, c'est la fin de l'hiver. Et c'est terrible parce que Margot comme Anne vont mourir en fait 2 mois avant la libération du camp de Bergen-Belsen et elles auraient pu être sauvées comme leur père Otto Frank a été sauvé et c'est lui qui publiera son journal de guerre, son journal de témoignage et qui est effectivement un document bouleversant parce que ça montre le regard d'une jeune fille, qui passe de l'enfance à la puberté et à l'adolescence et qui comprend très bien ce qui se passe autour d'elle. Et c'est vraiment un message, comme vous l'avez dit, un message d'espoir, mais un message de résistance, de résilience. Et elle a été excessivement courageuse, comme d'ailleurs sa mère et sa sœur. Elles n'ont pas été gazées à leur arrivée à Auschwitz en septembre 1944. Elles ont eu la chance d'être dans le même dortoir. Elles ont été très solidaires jusqu'au bout. Mais quand Anne et Margot ont quitté Auschwitz à l'hiver 45 pour Bergen-Belsen, Edith Frank, leur mère, est restée seule et est morte très vite, en fait, de froid. Et les filles ont, à Bergen-Belsen, c'était absolument horrible, et notamment l'épidémie de typhus de février-mars qui a emporté 17 000 membres de déportés de Bergen-Belsen. Et donc, elles ont été victimes de ça, et c'était absolument une tragédie. Alors, pour le message aujourd'hui, évidemment, 80 ans après, nous, justement, au Mémorial de la Shoah, on fait énormément de témoignages sur cette année 2025 et les 80 ans de l'année 45, avec différentes expositions. Mais aussi, on réfléchit à la question que vous posez via la cérémonie honteuse des Césars, c'est comment faire que les génocides du XXe siècle, les grands génocides du XXe siècle, les vrais génocides du XXe siècle, c'est-à-dire les 4, les Arméniens, les Juifs, les Gitans et les Tutsis au Rwanda, ces génocides-là ne soient pas dénaturés, ne soient pas détournés pour des combats politiques d'extrémistes, et que la spécificité de chacun de ces génocides et la spécificité de la Shoah en elle-même ne soient pas dénaturées. Et c'est vraiment un travail pédagogique, d'éducation, d'histoire, de politique, de droit aussi, parce qu'il y a le droit international, le génocide est très bien défini en droit international. Et donc les comparaisons oiseuses comme celle qu'a faite Glaser à cérémonie César ou comme a fait Ronnie Broman au moment de la célébration des 27 janvier 45, c'est comment on peut commémorer les 27 janvier 45, la libération d'Auschwitz, quand il y a un soi-disant génocide à Gaza. Ce type de propos sont absolument condamnables, c'est à la fois du négationnisme, mais plus que du négationnisme, c'est une manière aussi de cibler Israël et de cibler tous les soutiens à Israël en les traitant de génocidaires ou de complices de génocide. Et donc c'est un combat très important, qu'il faut vraiment inverser, il faut montrer exactement ce que c'est un génocide, avec c'est l'intention criminelle d'exterminer un peuple, et se donner les moyens de le faire, et ce qui évidemment, en aucun cas, ce qui s'est passé depuis la guerre qu'il y a depuis plus de 16 mois, entre les Israéliens et les terroristes du Hamas à Gaza.
François Helbron, je rappelle que vous êtes professeur associé à Sciences Po Paris. Merci d'avoir été avec nous sur Radio Shalom. Bonsoir.
Bonsoir Pierre.